Tournez avec moi dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Philippiens. Nous allons continuer notre étude ce matin, dans l'Épître aux Philippiens. Et nous allons continuer à analyser un petit peu le comportement de l'apôtre Paul, un encourageur dans le Seigneur, quelqu'un qui passe par des moments difficiles, quelqu'un qui sait aussi que l'Église de Philippe, elle passe par des moments difficiles parce que ce sont la majorité des chrétiens qui sont dans l'Église de Philippe, ce sont des gens qui sont vraiment des témoins fidèles de Jésus-Christ, qui sont persécutés pour leur foi. Et ce matin, j'aimerais regarder les versets 27 à 30. Ouah, je sais pas. 25 à 30, oui. On regardera pas 27, 28, 29 et 30. On va les lire. Mais c'est simplement pour vous mentionner que le message se fera en deux parties. Une partie aujourd'hui et la semaine prochaine, Dieu voulant. Si le Seigneur est parvenu, eh bien, on continuera la deuxième partie. Merci. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, verset 26, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et là, il est en train de nous mentionner que lui a rencontré ses adversaires et que l'Église de Jésus-Christ aussi, de Philippe, va avoir affronté ses adversaires, qui on le sait très bien, sont des gens qui sont ennemis de la parole. Ce sont des gens, et on le voit un petit peu dans les premiers versets du chapitre 1 aussi, qui le font par profit, qui le font par jalousie envers l'apôtre Paul. Mais Paul sait très bien ce qui attend les chrétiens de l'Église de Philippe, puisqu'il est en train d'en payer les conséquences. Et Paul, c'est un encourageur. C'est pas un déprimé. C'est pas un gars qui est prêt à tout abandonner. C'est un leader dans l'Église de Jésus-Christ. Et le leader, il est là pour encourager, il est là pour fortifier, il est là pour reprendre, il est là pour exhorter. Mais il est là pour leur dire, écoutez, on va le voir ce matin, ne voyez pas les souffrances, la persécution comme étant quelque chose d'anormal. Vous êtes des enfants de Dieu. Si vous marchez dans la vérité, les persécutions et les souffrances font partie de la vie chrétienne. Amen. Et elles ne sont pas faciles. Ce matin, j'étais en prière, je regardais la croix et je me disais, « Seigneur, comment fais-tu pour continuer à nous pardonner? Quelle patience tu as envers nous! » Et j'avais le message que le Seigneur avait placé sur mon cœur ce matin. Je me disais, « Seigneur, comment as-tu fait pour ne point ouvrir la bouche quand on t'a accusé injustement? Quand tu sais très bien, Seigneur, que tu as été condamné pour avoir fait le bien et non pas le mal. Seigneur, comment fais-tu? » Et Seigneur, donne-nous, ouvre notre intelligence, Seigneur, pour qu'on puisse saisir que quand on répond aux attaques, on répond vraiment dans notre nature humaine. Et que ce que tu veux, Seigneur, qu'on soit des imitateurs de ta personne, qu'on puisse être capable de fermer la bouche, et même quand on nous persécute, même quand on dit du mal de nous, Seigneur, qu'on puisse être capable de prier pour nos ennemis, parce que c'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Et Paul est un exemple, un modèle pour nous. Si on pense que la stature de Christ est trop élevée pour chacun de nous ce matin, Paul est un être humain comme vous et moi. Et on a beaucoup à apprendre de l'apôtre Paul. Et Paul connaissait la grâce du Seigneur Jésus-Christ parce que c'était quelqu'un qui persécutait l'Église et qui se voit comme étant un des plus grands pécheurs. Mais il a goûté la grâce de Dieu et de persécuteur qu'il est devenu, il est devenu persécuté. Et il était capable d'encourager. Parce qu'il se rappelait son ancien vécu dans sa nature humaine. Il se rappelait les chrétiens, les enfants qu'il a fait enfermer dans les prisons à cause de leur foi. Et Paul, finalement, trouvait ça tout à fait normal, en tant que chrétien, de passer par ses souffrances, parce qu'on vit dans un monde hostile à l'Évangile. Et il nous rappelle à travers la parole que notre royaume, il n'est pas ici-bas, il est dans les cieux. Nous sommes des citoyens célestes. Et il veut nous apprendre à travers l'Épître aux Philippiens à non pas marcher par les apparences, mais à marcher par la foi.
Amen. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore une fois te rendre grâce, Seigneur. Te rendre grâce pour ta grande patience envers ton Église. Te rendre grâce, Seigneur, parce que tu ne nous reprends pas comme nous le méritons. Mais aussi, Seigneur, de nous avoir accordé la plus grande bénédiction que tes enfants peuvent recevoir, ton salut en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, et que nous puissions nous rappeler que toute bénédiction qui vient de toi est une grâce. Tu ne nous dois rien, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce qu'elle nous fortifie. Merci aussi parce qu'elle nous gifle, mais sans nous blesser. Merci, Seigneur, parce que quand nous tombons, elle nous relève. Et lorsque je parle de la parole, je parle de Jésus-Christ, celui qui est vivant, qu'il puisse continuer à nous adresser, à nous parler, Seigneur, à nos cœurs ce matin, et que nous puissions sortir grandis, parce que nous aurons la certitude que Jésus nous a parlé à tous et chacun. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je pense que l'un des films les plus émouvants que j'ai vus ces dernières années, c'est le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Qui a vu « Il faut sauver le soldat Ryan » de Spielberg? Si vous avez vu ce film, alors vous savez qu'il est partiellement basé sur un fait vécu par la famille Ryan, dont les parents avaient 4 enfants. Et leur père est mort et les 4 garçons vont combattre comme soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale, laissant leur mère seule. Et lorsque le ministère de la guerre aux États-Unis va apprendre que les 3 des 4 garçons avaient été tués dans le feu de l'action, qu'il en restait plus qu'un, eh bien, ils vont faire appel au capitaine John Miller, dont le rôle est tenu par Tom Hanks, pour retrouver le dernier garçon survivant qui combat en Europe et le ramener à sa mère afin que celle-ci ait au moins un enfant qui perpétuera le nom de la famille. Et vous connaissez un peu l'histoire, je ne vous raconterai pas tout le film parce qu'il dure 3 heures, mais simplement vous rappeler que le capitaine Miller va réunir une unité de volontaires et qu'il va partir à la poursuite du soldat Ryan. Et tout au long de leur recherche, ils seront impliqués dans plusieurs affrontements avec l'armée allemande. Ils se battront pour se frayer un chemin afin d'atteindre le soldat Ryan. Lorsqu'ils le trouvent, celui-ci va refuser d'abandonner son unité jusqu'à ce que des renforts arrivent. Malheureusement, avant que les renforts arrivent, ils seront attaqués par l'armée ennemie qui représentait une force supérieure à la leur. Une bataille féroce va se dérouler entre les 2 camps et à la fin du combat, le capitaine Miller et ses 2 collègues sortent victorieux de cet affrontement, mais la plupart des volontaires seront tués ou blessés. Et je me souviens de la fin du film où le capitaine Miller, sur le point de succomber aux nombreuses blessures qu'il a subies, se trouvant assis sur le sol, le dos appuyé contre une jeep, attire vers lui le soldat Ryan et lui chuchote à l'oreille dans un dernier souffle, « Mérite-la. Mérite-la. » En d'autres mots, écoute. Plusieurs soldats, de très bons soldats même, ont donné leur vie pour sauver la tienne. Vis d'une telle façon que leur sacrifice, tu mérites d'avoir été libéré. Et tout de suite après ces paroles, le film nous transporte 50 ans plus tard en avant, alors que le soldat Ryan est maintenant un homme âgé. Nous le retrouvons dans un cimetière américain en France, accompagné de son épouse et de ses enfants adultes. Il marche jusqu'à ce qu'il trouve la tombe du capitaine John H. Miller, qui dirigeait l'unité qu'il a retrouvée et qu'il a ramenée chez lui il y a de cela maintenant près de 60 ans. Puis il commence à chanceler et il tombe à genoux en larmes en disant « Chaque jour, je pense à ce que vous m'avez dit ce jour-là sur le pont. J'ai essayé de vivre ma vie du mieux que j'ai pu et j'espère que j'y suis arrivé. J'espère en tout cas à vos yeux que j'ai mérité ce que vous avez tous fait pour moi. » Puis il se retourne vers son épouse qui était approchée de lui, craignant qu'il faisait une crise cardiaque et lui dit « Dis-moi chérie que ma vie a été bien. Dis-moi que je suis un homme bien. » Et sa femme de répondre « Tu l'es. Tu as été un père et un mari formidable. » Il est quelque peu soulagé car toute sa vie, il a vécu avec ce fardeau de savoir que plusieurs soldats courageux sont morts afin qu'ils puissent vivre. Le souvenir de l'amour qu'il lui avait manifesté en sacrifiant leur vie pour lui l'avait amené à vivre différemment chaque instant de sa vie, de façon à honorer leurs gestes. Alors que nous continuons aujourd'hui notre étude sur la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens, nous tombons sur ce passage où Paul nous rappelle Et où Paul le rappelle et nous rappelle que quelqu'un un jour va donner sa vie pour nous. Et ce quelqu'un, ce n'était pas seulement un homme bien, mais qu'il fut le seul homme parfait qui a vécu sur la terre et qu'il était le Fils unique de Dieu. Pour moi, rendu à cet endroit dans la lettre, c'est comme si l'apôtre Paul, sur le point de rendre son dernier souffle, chuchotait à l'oreille de tous ceux qui se disent chrétiens, mérite-la, sois reconnaissant et rappelle-toi celui qui est mort pour toi et qui t'a libéré afin que tu puisses vivre éternellement. Jetez un coup d'œil sur le verset 27 et vous verrez ce que je veux dire ce matin. Paul écrit, peu importe ce qui vous arrive, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Peu importe ce qui vous arrive, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Frères et sœurs, ne vous méprenez pas sur ce que je viens de dire. Je ne suis pas en train de dire que Paul écrit que nous pourrions faire quelque chose qui nous permettrait de mériter le salut que Jésus accomplit pour nous sur la croix. Il n'était sûrement pas en train de dire que nous pourrions vivre d'une manière telle que nous pourrions mériter non plus la vie éternelle. Absolument pas, car s'il avait bien quelqu'un qui avait compris en quoi consistait la grâce de Dieu, eh bien, c'est bien l'apôtre Paul. Il savait et il a constamment enseigné que nous ne pouvons jamais gagner ou mériter le sacrifice que Christ a accompli sur la croix pour nous. Amen. Rappelez-vous ce qu'il a écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi, ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu, il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Nous ne pourrons jamais être dignes de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Nous sommes trouvés dignes par Dieu en Jésus-Christ. Quelle grâce! Que Dieu, dans sa grâce, parce qu'on est trouvé digne en Jésus-Christ, qu'il ne porte pas ses regards sur notre vie passée, sur nos péchés, mais qu'il regarde à l'œuvre de Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes lavés, purifiés, libérés. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu pour sa grâce! Et gloire à Dieu parce qu'il est lent à la colère. Et le mot lent à la colère, dans le français courant, c'est merci, gloire à Dieu parce qu'il est patient envers chacun de nous. Gloire à Dieu parce que Jésus, quand il est venu nous visiter, il a été patient. Patient envers sa créature. Il n'avait qu'à commander à des légions d'anges de venir nous éliminer. Mais il n'a pas perdu de vue le but pour lequel il était venu. Et ce matin, si tous et chacun ici, vous êtes sauvés, nés de nouveau, eh bien, si vous avez cette espérance, c'est parce que Christ est mort pour vous. Amen. Dans ce verset ici, Paul dit que le fait de savoir que Christ a donné sa vie par amour pour nous devrait avoir un impact sur notre manière de vivre. En d'autres mots, nous devrions essayer de nous conduire d'une manière digne du sacrifice de Jésus, sachant que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Si nous étions à la place du soldat Ryan, je pense que nous aurions voulu vivre notre vie d'une manière digne de ce que représente la mort de Jésus pour nous. Je veux dire que si nous avons vraiment compris ce que Jésus a enduré pour nous, alors il n'y a aucun doute que nous voudrions essayer de faire quelque chose pour lui plaire, et ce, à travers notre manière de vivre. Bruce Marciano, qui a joué le rôle de Jésus dans 3 films, a dit ceci. Je crois que chaque chrétien devrait être suspendu sur une croix pendant au moins 30 secondes. Leur vie ne serait plus jamais la même. Et il l'a fait 3 fois, il a joué le rôle de Christ 3 fois. Et ça a complètement changé sa façon de voir les choses. Il est depuis un prédicateur de l'Évangile aux États-Unis. Et c'est vrai que d'en haut, on doit voir le monde complètement différent. Dans le passage aujourd'hui, Paul dit qu'il y a une chose que nous pourrions faire, qu'il y a une matière, une manière dont nous pourrions vivre qui serait digne de Jésus, c'est dans notre façon de réagir face à la souffrance. Et je ne pouvais pas passer à côté pour en parler ce matin et faire l'exégèse des versets 27 à 30, La souffrance, c'est important. Il y a des gens qui viennent au Seigneur Jésus dépendant de la façon qu'ils ont entendu l'Évangile. À partir du moment où ils entendent, où ils souffrent, ils abandonnent tout. Ils quittent tout parce que c'est pas le genre d'Évangile qu'on leur a prêché. Mais la vie chrétienne, la souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. Je vous dis pas qu'on doit courir après la souffrance, mais elle fait partie, ça ne doit pas être une surprise pour nous. Surtout si on vit d'une manière digne de l'Évangile. Plus le monde s'enfonce dans le péché et plus la persécution devient apparente, tellement que le contraste est frappant entre vivre dans le péché et ne pas vivre dans le péché. Car lorsque nous réagissons dans les moments difficiles comme Christ a réagi, nous donnons une preuve irréfutable que nous sommes des disciples de Christ. Et moi, c'est une des grandes leçons que j'ai besoin encore d'apprendre aujourd'hui. Quand on m'agresse, quand on m'attaque, quand on parle dans mon dos, quand on me juge, d'être capable de me taire et de prier. Parce que si, quand je réagis, je ne suis pas en train de prier, je ne sers pas le royaume de Dieu. Je demande pardon au Seigneur à chaque fois, Seigneur, apprends-moi à t'imiter, apprends-moi à mettre en pratique ce que tu as vécu. C'est la chair qui réagit à chaque fois quand on répond. Le Seigneur ne nous a pas demandé de répondre à nos ennemis, il nous a dit « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Et Paul est un exemple, un modèle pour nous ce matin. Verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le signe pour nos adversaires que nous sommes sur la voie du salut. Et cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Lorsque les chrétiens sont persécutés, lorsqu'ils font face à des moments de souffrance et qu'ils continuent toujours à suivre fidèlement Jésus-Christ, les gens le remarquent. Ils voient que nous avons quelque chose de spécial en nous. Et ils sont impatients de connaître notre secret. Et pourquoi ils voient qu'il y a quelque chose de spécial en nous? Parce que ce n'est pas humain de se taire quand on est insulté, quand on est agressé. Ce n'est pas humain. Et c'est quelque chose de spécial, c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. C'est l'amour qui a déversé en nous. Qui nous amène même à pleurer pour ceux qui parlent en mal, qui disent du mal de nous. Qui nous appelle même à prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que nous savons qu'ils ne sont pas sur la voie du salut, mais qu'ils sont sur la voie de perdition. Et c'est vrai que c'est un miracle. Et Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, « Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de miracle. » Quand quelqu'un, en tant que pécheur, calomnie, ça faisait partie de sa vie, et que Dieu le transforme pour que maintenant sortent de sa bouche des paroles de bénédiction, c'est un miracle. C'est ça le royaume de Dieu. Quand quelqu'un dans le monde, alors qu'il est pécheur, arrête pas de mentir, il est incapable de s'arrêter de mentir, qu'il vient à Jésus-Christ, et que le Seigneur le libère, c'est un miracle. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Et Dieu veut manifester sa puissance à travers son peuple, encore aujourd'hui, pour que les gens voient que vous êtes le fruit d'un miracle qui vient de Dieu, par votre comportement, par votre façon de parler, par votre façon de vous tenir. Amen! Lorsque les chrétiens sont persécutés, souffrent, et qu'ils continuent à suivre fidèlement Jésus-Christ. Les gens, je le répète, les gens le remarquent. Ils voient que nous avons quelque chose de spécial en nous et ils sont impatients. Voilà le mot. Ils sont impatients de connaître notre secret. Et cela plaît à notre Seigneur. Lui qui a été maltraité et opprimé, lui qui n'a point ouvert la bouche et qui semble à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, n'a point ouvert la bouche. Quiconque vit comme un chrétien dans ce monde, sans Dieu, fera face tôt ou tard à la même persécution. Car voyez-vous, la souffrance, ce n'est pas quelque chose d'optionnel pour les chrétiens qui veulent se conduire d'une manière à plaire au Seigneur. Si vous êtes un chrétien de nouveau, il est inévitable que vous souffrirez à cause de votre foi. Parce que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. Combien cela nous demande une certaine maturité, n'est-ce pas, pour saisir que cela vient de Dieu Il nous a fait la grâce non seulement de croire en Christ en le servant, mais encore de souffrir pour lui, versets 29 et 30 dans le même chapitre. C'est une grâce du Seigneur de souffrir pour la cause de Jésus. C'est une grâce. Voulez-vous l'accepter, cette grâce-là, ce matin? C'est une grâce. Le salut, c'est une grâce. Le pardon de nos péchés, c'est une grâce. Et souffrir pour la cause de Jésus-Christ, Paul, c'est pas moi qui le dis. Paul le dit, c'est une grâce. Pourquoi c'est une grâce? Parce que vous dérangez l'adversaire. Parce que vous êtes en train de marquer des points dans le territoire de l'adversaire. Et les territoires, le diable va rugir. Et le diable va provoquer des choses pour vous décourager. Mais Paul est un encourageur. Paul a vécu ces choses-là. Et il peut dire qu'en aucun temps, Dieu lui a fait défaut. Amen. Un journaliste demanda un jour à Roger Staubach, un ancien quart arrière des Cowboys de Dallas. Vous savez, c'est pas le football européen, mais le ballon ovale. Alors, le quart arrière, c'est celui qui fait les passes, qui organise les jeux. Et on lui demandait ce qu'il pensait des blessures qu'il avait subies lorsqu'il jouait au football. C'est un joueur de football qui a subi de nombreuses blessures dans sa vie. Il dit, si vous jouez au football et que vous pensez ne jamais subir de blessures, vous n'êtes pas digne de jouer au football. Nous ne souffrons pas parce que c'est le souhait de Jésus qu'il en soit ainsi. Notre Seigneur n'est pas un sergent cruel qui se plaît à mener la vie dure à ses recrues. Non, la souffrance, elle est inévitable pour les chrétiens. Parce que nous vivons dans un monde imparfait qui est hostile à Christ et à celui que nous suivons. Joe Starwell, président de l'Institut biblique Moody, a écrit que le rejet, la persécution et finalement la crucifixion sont la conséquence directe du fait que Christ est venu accomplir son œuvre dans un territoire étranger qui était farouchement opposé à ce qu'il réussisse dans sa tâche. Rappelez-vous, lorsque Jésus a guéri l'homme à la main paralysée le jour du sabbat, les autorités religieuses se réunissent aussitôt pour décider comment il devait le faire mourir. Heureusement que le Seigneur n'attendait pas de recevoir des bénédictions et la louange des hommes quand il faisait des miracles. Ouais. Pas les gens du monde, les religieux. Au lieu de se réjouir, ils se sont bloqués sur la loi. Et plutôt que de louer le Seigneur pour le miracle qu'il venait d'accomplir, braqué sur la loi, il cherchait une faille dans la loi, dans ce que Jésus avait fait pour le condamner. Hey, il a fait un miracle le jour du sabbat. C'est comme si on pouvait dire aujourd'hui que l'Église ne peut pas recevoir de bénédiction le jour du dimanche. Il n'y a personne qui peut se convertir le jour du dimanche parce que c'est un jour de repos. Et là, qu'on reproche à quelqu'un de faire un appel au salut le dimanche parce que c'est un jour de repos. Quelqu'un qui se braque les yeux là-dessus, un légaliste. Jésus a guéri des gens. Il a ressuscité des morts. Et même parce que Lazare avait été ressuscité, il y a des religieux qui ont commencé à comploter contre Lazare parce qu'il était un témoignage. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que l'esprit du monde a changé? Non. Et je ne veux pas vous décourager ce matin, je veux vous encourager. On a Paul qui est là, il n'y a pas quelqu'un dans la parole, en tout cas dans les épîtres, qui souffre autant que lui. C'est un implantateur d'Église. C'est un ancien qui donne l'enseignement à l'Église. Il doit préparer Timothée. Quand vous lisez les deux épîtres à Timothée, il lui dit, écoute, ils ne te feront pas de cadeaux. Ils ne te feront pas de cadeaux, Timothée, comme ils ne m'en ont pas fait à moi. Mais grâce soit rendue à Dieu que tu as été choisi par le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Quelle bénédiction nous avons, frères et sœurs. Quelle bénédiction d'avoir été appelé par le Seigneur pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. De pouvoir partager aux gens quand ils nous rencontrent. Voici ce qui fait ma joie. Voici ce qui me donne la paix. Ah, il se passe des choses en Russie, il se passe des choses en Crimée. Écoute, moi je prie pour ça, je ne peux rien faire, je ne peux rien changer. De toute façon, un chrétien, ce n'est pas un lanceur de bombes. Hein? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de prier. On peut bombarder, par contre, le ciel de prière pour que les gens règlent leurs problèmes là-bas. Hein? Il y a un général qui a dit, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Alors, ça vous donne une idée de la mentalité du monde. Mais on est là pour prier pour les gens. On est là pour prier que des innocents, le moins possible d'innocents, puissent mourir devant la folie des hommes, de faire la guerre pour avoir la paix. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Et nous sommes là pour transmettre cette paix que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Amen. Car, voyez-vous, chaque aspect du caractère de Christ, son enseignement, ses attitudes et ses réponses à la vie, toutes ces choses constituent un danger pour le règne et le royaume du Dieu de ce monde. Et si nous suivons Jésus, si nous modelons nos vies sur lui, nous souffrirons pour les mêmes raisons que lui. Et cela ne devrait pas nous surprendre que Jésus nous a avertis de cela. Tournez avec moi dans Jean chapitre 15, versets 18 à 20. Je l'écris en français courant, je trouve que c'est plus facile. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que le monde vous aime? Je pourrais poser la question différemment. Est-ce que vous aimez le monde ce matin? Lequel des deux occupe le plus de place dans votre cœur? Le royaume de Dieu, les choses du royaume de Dieu ou les choses du monde? Les choses du monde, ce sont les apparences, ce sont les illusions, ce sont les séductions. Les choses du royaume de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ, la foi qui nous a pardonné nos péchés à travers son sacrifice, la foi qui nous a libérés, la foi que nous sommes déjà ressuscités en lui, la foi qu'un jour il revient bientôt et nous marchons en nouveauté de vie dans ce que Jésus a accompli à la croix, mais aussi qu'il continue à accomplir dans nos vies jour après jour. Gloire soit rendue à Dieu et il continue Jésus. Mais je vous ai choisi et tiré du monde. Et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. C'est normal. C'est normal. Vous rencontrez des gens qui savent que vous êtes chrétien, qui ont de la difficulté à vous sentir, qui vous évitent. Parce que vous faites du bien autour de vous, parce que vous annoncez une bonne parole, ils vous haïssent. Vous n'avez pas à vous demander ce que vous avez fait de mal. C'est normal, dit Jésus. On met l'apôtre Paul de côté, on est avec Jésus. C'est normal. Et Paul est là pour encourager les chrétiens à leur rappeler, écoutez, rappelez-vous les paroles de Jésus. C'est normal. Mais gardez les yeux fixés sur l'espérance qui est la vôtre. Vous n'êtes non pas seulement des citoyens du royaume des cieux, mais vous êtes aussi des héritiers. Philippiens chapitre 3, des héritiers du royaume. Gardez vos yeux fixés sur ce qui vous attend. Gardez cette espérance qu'un jour Jésus-Christ va revenir et qu'il transformera votre corps mortel pour le transformer dans un comme son corps de gloire. Nous attendons des cieux notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'il dit au chapitre 3. Et il dit à travers l'espérance que vous avez maintenant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Les souffrances sont momentanées, la gloire, elle est éternelle. Ne gardez pas vos yeux sur ce que vous voyez, sur la souffrance. Gardez vos yeux sur votre espérance, la foi en Jésus-Christ. Cette espérance, elle est éternelle. Personne ne peut vous la voler. J'aime bien le mot, moi, si je vous ai tiré. Tiré, c'est pas facile. Et le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà le miracle. Le royaume de Dieu n'est que miracle. Si vous êtes dans cette salle ce matin, c'est un miracle. C'est parce que Dieu vous a tiré par la puissance de l'Évangile. C'est parce que Jésus, par son Saint-Esprit, a parlé à votre cœur. Et ce matin, si vous êtes capable de le louer dans la première partie du culte, c'est un miracle. On est beaucoup plus rapide à maudire qu'à bénir. Et c'est un miracle que Dieu place des paroles de bénédiction dans nos vies, dans nos cœurs, pour qu'on puisse ouvrir la bouche, que les anges, que le ciel, le trône de Dieu puissent l'entendre, mais aussi les frères et sœurs en Christ, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient exhortés. Amen. Vous êtes des miraculés. Et vous faites partie du royaume de Dieu. Et je le répète, qui n'est pas une affaire de parole, mais de miracle. À chaque fois que quelqu'un vient à Jésus-Christ, louons-le pour le miracle qu'il a fait. Il n'y a pas un être humain qui est capable d'amener personne à Jésus-Christ. C'est la parole qui fait son effet dans la vie. Le cœur de la personne s'ouvre. Elle se voit telle qu'elle, un pécheur perdu. Elle voit les portes de l'enfer qui s'ouvraient pour elle depuis toujours. Et elle saisit l'Évangile de Jésus-Christ. Et là, on peut le louer. Seigneur, merci, merci de m'avoir sorti de la boue dans laquelle je baignais. Je réalise mon péché, Seigneur. Oui, j'étais malade et tu m'as guéri, tu as accompli un miracle dans ma vie et je te demande pardon. Pardon d'avoir eu pitié de moi. Pardon pour ce miracle que tu as accompli dans ma vie. Et jour après jour, on devrait le louer. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Seigneur d'avoir fait de nous ton peuple. Amen. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, mais après que vous aurez souffert un peu de temps. Ah, je vais terminer chapitre 15 verset 18 à 20. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Regardez chapitre 16 verset 1. Pourquoi il nous dit de ne pas nous surprendre, qu'on va nous haïr, qu'on va nous détester? Je vous dis cela pour que nous vous n'abandonniez pas la foi. Vous ne devez pas être surpris. Il y en a qui abandonnent leur foi pour les plaisirs de ce siècle présent. C'est ce que Paul dit dans Timothée, 2 Timothée. Il y en a d'autres qui abandonnent la foi à cause des tentations. Mais Jésus, s'il nous rappelle, écoutez, soyez pas surpris. Si je suis votre modèle, s'ils ne m'ont pas épargné, ils ne vous épargneront pas. J'ai été fidèle, j'ai marché dans la vérité avec mon Père. Si vous marchez dans la vérité, ils ne vous épargneront pas. Et c'est une grâce que Dieu vous fait de souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Loué soit Dieu pour la bénédiction qu'il nous donne de souffrir pour Jésus-Christ. Loué soit Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de, que Jésus ait accepté de souffrir pour chacun d'entre nous. À lui soit la puissance... Pardon. Pierre dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10, « Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Christ vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. » Et Pierre, vous savez ce qu'il dit, celui qui a renié Jésus, à lui soit la puissance pour toujours. Amen. Pierre était capable de parler de perfectionnement, de parler d'affermissement, de parler de fortifier son cœur et d'être établi sur de solides fondations. Il avait renié son Seigneur Jésus-Christ. Il l'a rencontré et il s'est rappelé que Jésus n'était pas venu pour juger le monde, ni pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et Jésus va y accorder son pardon. Et Pierre va être formé à l'école de Jésus-Christ. Et quand vous regardez la première et la deuxième épître de Pierre, quelle maturité Pierre avait acquérie pour nous dire ceci, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec le Christ vous perfectionnera. Vous allez souffrir, c'est pour votre perfectionnement. Vous allez souffrir, c'est pour vous affermir dans votre foi. Vous allez souffrir, c'est pour vous fortifier dans votre foi. Et pourquoi Dieu fait ça? Pour vous établir sur de solides fondations. 1 Pierre 5, 10. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi il veut vous avoir sous de solides fondations? Parce qu'une foi qui est construite sur le sable, quand il arrive la persécution, quand il arrive la maladie, elle abandonne. Et Jésus nous dit au chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 1, je vous dis ces choses afin que vous n'abandonniez pas la foi, que vous ne soyez pas une occasion de chute. Afin que ça ne soit pas une occasion de chute pour vous. Tout laisser tomber. « Oh non, moi je vais avoir les cadeaux, mais je ne vais pas avoir ce qui vient avec. » Et le Seigneur est bon, il connaît nos limites. Il connaît, il sait, et la parole nous dit dans Corinthiens à travers l'apôtre Paul, que quand on souffre, quand on passe par des épreuves difficiles, il a déjà le moyen entre les mains pour nous en sortir. Mais rappelez-vous, c'est pour construire votre fondation, qu'elle soit solide, frères et sœurs. Et qu'après, quand les gens vous persécuteront, quand les gens vous feront souffrir, que vous vous rappeliez que vous avez été un jour dans le passé aussi des leurs. Et que Dieu, dans sa grâce, plutôt que de vous condamner, vous a sauvé en Jésus-Christ. Amen. Un soldat qui servait dans l'armée d'Alexandre le Grand fut accusé de mauvaise conduite. Il fut conduit devant Alexandre pour répondre de sa conduite. Alexandre lui demanda quel était son nom. Et tout tremblant, le soldat répondit, « Je m'appelle Alexandre, monsieur. » Encore une fois, Alexandre le Grand lui demanda quel était son nom. Et pour la seconde fois, le soldat répondit, « Je m'appelle Alexandre, monsieur. » Et d'une voix forte, Alexandre le Grand lui dit, « Alors change de nom ou change ta façon de vivre. » Je ne pense pas qu'il est exagéré de dire qu'un chrétien doit se conduire en chrétien. Si quelqu'un affirme être chrétien, alors il doit dans la pratique démontrer qu'il est chrétien. Si quelqu'un s'attend à vivre comme un chrétien au ciel, il devra d'abord apprendre à vivre comme un chrétien sur la terre. Notre école de formation, elle est sur la terre. Paul voulait que la vie spirituelle des chrétiens progresse et que leur joie soit débordante. Il voulait les aider à être ce qu'ils devaient être et à devenir les chrétiens qu'ils sont censés devenir. Il voulait rester avec eux. C'est incroyable. Verset 25-26, il voulait rester avec eux pour les faire progresser dans leur vie chrétienne. Et regardez la suite, ça c'est terrible. Pour qu'ils soient joyeux dans leur foi. C'est pas moi qui le dis, verset 25-26 de Philippiens. Hey, je veux rester avec vous. Je veux rester avec vous, je veux partager votre joie. Et non, en plus, je veux partager votre joie, je veux augmenter la mesure de votre joie. C'est incroyable que quelqu'un dise, hey, c'est pas un encourageur, ça. Ah, si je me présente ici, moi, le matin en avant, dimanche matin, on va commencer. Salut, frères et sœurs, j'espère que ça va bien. Eh bien, c'est une bonne semaine. Vous allez dire, mais ce gars-là, il va nous endormir. Ce gars-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ses Valium ou il est sur les tranquillisants. Il y a des chrétiens qui m'ont déjà présenté l'Évangile, hein, mais tu avais l'impression qu'ils étaient plus malheureux que moi. Et moi, qu'est-ce que je me dis, moi? Je peux pas changer de royaume, ça n'a pas de sens. Il y a de là deux fois plus malheureux que moi. Et j'ai même l'impression qu'ils regrettent d'être chrétiens, parce que le plaisir qu'ils trouvaient dans le monde, ils ne le trouvent pas dans l'Église. Hey, frères et sœurs, miracle. Le royaume de Dieu, c'est un miracle. Le monde, illusion, séduction, va être brûlé un jour. Mais l'assurance que vous avez, frères et sœurs, l'espérance que vous avez, elle est éternelle. Amen. Et je termine avec ça ici. Qu'est-ce qui permettait à l'apôtre Paul de continuer à obéir, à avancer dans le Seigneur? Paul nous dit, tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Paul utilisait les armes de la foi, les armes de la foi. Les armes qu'il utilisait dans son combat n'étaient pas celles des hommes de ce monde. Paul n'allait pas combattre l'Évangile pour Christ avec un canon, avec un pistolet, avec un arc, avec une arbalète, avec un tire-poids. Paul, il utilisait les armes puissantes de Dieu. Regardez ce qu'il dit, qui permettent de détruire des forteresses, qui détruisent des faux raisonnements. Quand vous évangélisez quelqu'un, en tout cas c'est mon cas, quand je m'aperçois que la personne est coincée dans quelque chose, j'y vais avec la parole. Ça me donne rien de raisonner avec elle. C'est quelque chose qu'elle a appris depuis tout petit. Quand quelqu'un me dit qu'il ne croit pas en Dieu, j'ai le droit d'y poser la question pourquoi, qu'est-ce qui l'amenait à ne pas croire en Dieu? Et là, je vais lui citer des versets. Mais je ne suis pas là pour combattre avec mon raisonnement à moi. Je ne suis pas là pour raisonner les Écritures. Je suis là pour lui partager ce que la parole dit sur Dieu. Maintenant, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il utilisait les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire. Notre raisonnement ne détruit rien. Nos belles paroles ne détruisent rien. Qui détruisent des forteresses, des faux raisonnements, qui renversent tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Mais surtout, il faisait prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Et j'étais à Zakopane cette semaine, j'étais en train de préparer un message, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Gardez vos pensées captives en Jésus-Christ. Avez-vous déjà médité là-dessus? Gardez toutes vos pensées captives en Jésus-Christ. Il dit, hein? Obéissance, l'amener à l'obéissance. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est garder toutes mes pensées captives en Jésus-Christ? Et là, en méditation, eh bien, il est sorti trois choses. Ce qui amenait Paul à obéir à la parole de Dieu, c'est qu'il gardait toutes ses pensées captives en Jésus-Christ. Et garder toutes ses pensées captives en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se rappelait continuellement ce que Christ était. Christ était le créateur de toutes choses. Christ était son libérateur. Christ, il était son sauveur. Il se rappelait ça, c'était une des pensées captives qu'il gardait en Jésus-Christ. La deuxième pensée qu'il gardait pour lui, c'est que la deuxième pensée qu'il a gardée en Christ, c'est non seulement ce que Christ est, mais la deuxième, ce que Christ a fait pour lui. Ouais. Seigneur, tu t'es fait homme pour moi. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Seigneur, tu as subi la colère de Dieu à ma place. Il se rappelait ce que Christ avait fait pour lui. Il se rappelait aussi qu'il était ressuscité. Il se rappelait aussi ce qu'il avait fait Il se rappelait aussi qu'un jour, il reviendrait le chercher. Il se rappelait ce que Christ est. Il se rappelait ce que Christ était. Et il se rappelait ce que Christ avait dit. Gardons nos pensées captives en Jésus-Christ. Frères et sœurs, tout ça, c'est dans le domaine de la foi. Toutes nos autres pensées proviennent souvent du monde. Et si on laisse entrer des pensées du monde, ça évacue ce que Christ est pour nous, ce que Christ a fait et ce que Christ a dit. Si nous allons chercher ce que le monde dit, on oublie ce que Christ a dit. Si on regarde à ce que le monde fait ou ce qu'il peut faire, on oublie ce que Christ a fait pour nous. Et ainsi de suite. Et Paul dit, gardez toutes vos pensées captives en Jésus-Christ pour vivre dans l'obéissance. Et ça va loin, ça, pourquoi? Parce que si je me rappelle, lorsque vient une tentation, que je me rappelle ce que Christ est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, je me dis, Seigneur, comment moi je peux faire pour vivre dans le péché? Alors, ce que tu es, ce que tu as fait, et ce que tu as dit pour moi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé évader mes pensées aux choses du monde, plutôt que de les garder en Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon, parce qu'en l'espace de quelques secondes, Seigneur, ça m'a fait oublier le prix que tu as payé pour moi. Ça m'a fait oublier l'espérance vivante qui est la mienne. Et je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon parce que ça m'a amené aussi à vivre par la vue et non par la foi. Et Seigneur, ça m'a amené à oublier le miracle que tu as fait dans ma vie un jour, en me permettant de passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour le don que tu m'accordes en Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce qu'un jour, de la même manière que tu as ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, de la même manière aussi tu me ramèneras de la mort à la vie. Que vous puissiez être bénis à travers ces quelques paroles de l'apôtre Paul ce matin. Et que nous puissions trouver digne en Jésus-Christ. Comme Paul nous dit au verset 27, de marcher comme un chrétien doit marcher pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et non pas pour s'accaparer quelques éloges des hommes. Mais qu'on puisse s'entendre un jour dire, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Amen.